France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
3 mois après leur rupture politique, Donald Trump et Elon Musk se sont affichés hier l'un à côté de l'autre lors de la cérémonie d'hommage à l'influenceur Charlie Kirk qui s'est tenue hier. La poignée de main entre les deux hommes illustre ce qu'il reste entre eux, non seulement de sympathie, mais également de proximité idéologique. Alors qu'est-ce que cette proximité raconte sur le plan des idées? Qu'est-ce que le monde de la tech qui influence et côtoie Donald Trump propose vraiment? Quelle est sa vision de la politique, de la démocratie, des institutions? Et au-delà, la technologie peut-elle réinventer, recomposer même la pensée néo-réactionnaire? Question que je vous emprunte. Olivier Tesquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule enquête de Télérama. Vous signez Apocalypse Nerds. Comment les technofascistes ont pris le pouvoir? Co-signé, co-écrit avec Nastasia Adjadji et un ouvrage qui paraît aux éditions Divergence, paru donc vendredi dernier. Face à vous, Arnaud Miranda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en théorie politique, chercheur associé au CEVIPOF. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Les pensées contemporaines de la décadence » soutenue l'an dernier sous la direction de Julie Saada. Et vous ferez paraître en janvier prochain chez Gallimard un ouvrage intitulé « Les lumières sombres, une analyse de la pensée néo-réactionnaire ». Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Merci d'être un président aussi favorable aux entreprises et à l'innovation. C'est un changement très rafraîchissant.
J'aimerais vous parler de quelque chose d'important aujourd'hui, car il est temps de revenir à nos racines autour de la liberté d'expression sur Facebook et Instagram. Nous sommes arrivés à un point où il y a trop d'erreurs et trop de censure. Nous allons travailler avec le président Trump pour faire pression sur les gouvernements du monde entier qui s'en prennent aux entreprises américaines et nous poussent à censurer plus.
L'IA va tout changer. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Vous êtes notre président et vous avez immédiatement compris cela. Et vous avez libéré l'innovation et la créativité américaine.
L'avenir va être vraiment brillant. Comme l'a dit le président, on va connaître un âge d'or, ça va être fantastique. Et l'une des choses les plus fondamentales, une des valeurs américaines que je préfère, c'est l'optimisme. Et nous allons nous faire un bel avenir, un très bel avenir.
4 patrons de la tech, les 3 premiers, Sam Altman, Safra Katz et Mark Zuckerberg s'exprimaient dans le cadre d'un déjeuner face à Donald Trump. Le dernier, Elon Musk, s'exprimait dans le cadre de l'investiture de ce président américain. Olivier Tesquet, face à la diversité de ses profils, de ses parcours, de ses positionnements politiques également, il fut un temps. Qu'est-ce que vous appelez vous-même le technofascisme ?
Alors c'est vrai que ce terme, évidemment, il pose question parce que le fascisme, probablement la... On va dire la catégorie politique la plus commentée, la plus controversée du XXe siècle. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir si cette dimension, si ce préfixe techno, recomposait le fascisme ou les fascismes historiques tels qu'on les connaît. Alors, d'abord, le présupposé, c'était qu'il y avait des invariants de ces fascismes historiques qu'on retrouvait dans le discours politique, et notamment des patrons de la tech ou des candidats politiques qu'ils soutiennent et auxquels ils ont prêté allégeance. Et j'ai plus très peur d'utiliser ce terme-là quand on a vu la servilité déployée par certains d'entre eux devant Donald Trump.
Mais commençons par là. Alors, quels sont ces invariants, pardonnez-moi, du fascisme que vous avez mis en lumière?
Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. J'en vois deux principaux qui sont d'abord ce qu'on pourrait qualifier de modernisme réactionnaire, c'est-à-dire en gros combattre la modernité politique avec les outils de la modernité technologique. Si je devais le synthétiser dans une formule un peu facile, ce serait dire le wokisme, ce qu'ils appellent comme ça, non, mais ChatGPT, oui. Et ça, pour le coup, ça vient s'ancrer dans une vision de la modernité qui est une vision assez ancienne, et par exemple qu'un Peter Thiel, sur lequel on reviendra, quelque chose auquel il a beaucoup réfléchi. Et puis le deuxième invariant, ce serait probablement la volonté de régénération du corps national menacé par tout un tas de périls existentiels à travers une purification. Et ça, on le retrouve et on l'entend beaucoup et on l'a beaucoup entendu, notamment ces derniers jours après l'assassinat de Charlie Kirk, dans tout un tas de prises de parole, que ce soit Donald Trump, que ce soit J.D. Vance, que ce soit Stephen Miller, son directeur de cabinet adjoint. Cette rhétorique-là remonte de plus en plus.
Arnaud Miranda, avant de parler de technofascisme, le fascisme d'abord, est-ce que c'est un bon terme pour comprendre ce qui se passe présentement aux États-Unis?
Alors, moi j'aurais peut-être un tout petit peu plus de prudence à l'égard de ce terme. Peut-être deux points. Le premier, c'est que tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser le terme. On peut le faire et la manière dont vous l'utilisez ne me choque pas. Le second point que j'apporterai pour nuancer un peu l'usage que vous en faites, c'est que je distinguerai entre la pratique du pouvoir qui est celle de Trump, que j'aurais un peu plus de mal à qualifier de fasciste, dans la mesure où il manque certains éléments caractéristiques du fascisme, notamment le projet anthropologique de transformation de l'homme. Le trumpisme, depuis 2016, et même avec le second mandat, ne me semble pas caractérisé par ce projet de renouvellement. En revanche, si on veut trouver du fascisme dans les marges idéologiques qui influencent aujourd'hui le trumpisme, là, effectivement, on peut en trouver, et notamment dans ce qu'on peut appeler la pensée néo-réactionnaire. En effet, je pense qu'il y a des éléments clairement fascistes.
Juste un point de précision, Arnaud Miranda, lorsque vous parlez de ces marges, il faut les définir, il faut nous les décrire. Quelles sont ces marges qui influencent, notamment par le prisme de la tech, de la technologie, la pratique du pouvoir de Donald Trump ?
Alors, je pense qu'il faut essayer de replacer ça dans un cadre, on va dire...
Dépiez-nous une grande cartographie, voilà, justement, de ces mouvements composites.
Alors, allons-y. Je pense qu'un point fondamental, c'est de comprendre qu'il y a eu, depuis la fin des années 2000, aux États-Unis, une grande transformation idéologique à droite, puisqu'on avait jusqu'à ce moment-là une domination idéologique du conservatisme dans le Parti républicain et puis plus largement dans ce qu'on peut appeler la droite. Le conservatisme, c'est quoi ? Le conservatisme, c'est l'idée qu'on va essayer de préserver un statu quo et notamment un certain nombre de valeurs religieuses, morales, politiques dans un cadre démocratique. Donc ça caractérise à la fois le conservatisme un peu classique, voilà, des religieux, des évangélistes, des catholiques, même de toute forme de christianisme conservateur aux États-Unis, mais aussi ce qu'on a appelé le néoconservatisme qui, lui, ne veut pas simplement préserver ses valeurs morales et religieuses et politiques, mais les déployer même au niveau international avec la politique interventionniste qu'on connaît, notamment celle de Bush, où le néoconservatisme a atteint son acmé. Mmh. Et donc cette pensée conservatrice est entrée en crise à la fin des années 2000, notamment du fait de l'échec de la politique interventionniste de George Bush, George W. Bush. Et au début des années 2000 sont apparus, je dirais, trois courants principaux qui ont renouvelé idéologiquement cette droite conservatrice. Le premier, c'est l'alt-right, donc qui est la droite alternative, caractéristique du style national populiste de la première campagne de Trump, qui est populiste, donc qui oppose un peuple qui serait honnête, sain face à une élite corrompue. Et donc c'est un discours de renversement de l'establishment, avec les franges, disons, les plus radicales de l'alt-right étant néo-nazis, racistes, etc. Un deuxième courant qui est la néo-réaction, dont on parlera peut-être ensuite et dont Curtis Yarvin est le personnage clé.
On y reviendra.
Et le post-libéralisme, qui est ce qu'on pourrait appeler la tendance religieuse de ce renouvellement idéologique de la droite américaine, avec notamment des penseurs comme Adrian Vermeule, qui entendent promouvoir une idéologie du bien commun pour remplacer le libéralisme.
Dans cette carte brillamment dépliée, Olivier Tesquet, où se situe, où se loge le technofascisme ? À quoi vient-il se greffer, justement, sur ces trois branches ?
Alors, j'en aurais peut-être rajouté une quatrième, qui est peut-être une émanation de la néo-réaction, qui est le paléolibertarianisme. Alors, ça fait un peu barbare.
Là aussi, il faut décrypter,
comme ça. Alors, on connaît le mouvement libertarien aux États-Unis. Voilà, cette idée conjugaison à la fois l'ordre spontané du marché et puis les libertés individuelles qu'on défend. Mais en fait, ce pôle libertarien a toujours oscillé dans son histoire entre la gauche et la droite. A toujours été une force très minoritaire qui donc s'est jouée d'alliances avec un camp, puis l'autre, avec différentes factions, etc. Et depuis les années 90, il y a eu une consolidation d'une pensée paléo-libertarienne. Et l'idée de ces paléo-libertariens, c'était de s'allier aux paléo-conservateurs. Et donc c'est à la fois c'est le mariage entre l'ordre spontané du marché cher aux néolibéralistes et aux libertariens, avec une vision à la fois très racialiste et très sécessionniste de la société, où on n'a pas de souci à éliminer les indésirables. Ça a été la pensée de quelqu'un qui est très important, parce que par exemple c'est l'idole de Javier Milei en Argentine, qui est Murray Rothbard, qui était le grand penseur, on va dire, paléo-libertarien. C'est aussi l'idéologie qui a un peu former Curtis Yarvin parce que lui, l'une de ses figures tutélaires, c'est un Allemand qui s'appelle Hans Hermann Hoppe. Et Hans Hermann Hoppe avait vraiment conceptualisé ça et il l'avait formalisé dans un livre au début des années 2000 qui s'appelait « Démocratie, le dieu qui a failli ». Et on retrouvait déjà tous ces ferments, finalement, du technofascisme dont se sont emparés les patrons de la tech qui, à mon avis, se sont un peu piqués, justement, de cette idée du monarque chef d'entreprise qui était défendu à l'époque.
Mais alors, pour qu'on comprenne bien, parce que vous nous dites l'un et l'autre, dans le fond, c'est une quatrième branche ou c'est une marge dans la pensée, justement, qui permettrait aujourd'hui d'influencer la pratique du pouvoir de Donald Trump. Comment ce technofascisme, ces penseurs, et on va tenter de comprendre dans cette émission d'où ils viennent, comment ils pensent, mais à quel point parviennent-ils à percer la gangue du pouvoir trumpiste? À quel point l'influencent-ils véritablement, Arnaud Miranda?
Alors ces penseurs qu'on pourrait appeler d'ailleurs les libertariens autoritaires, hein, pour rendre ça un peu
on
plus simple.
On multiplie les concepts dans ce.
Mais voilà, alors, c'est plus simple que paléo-libertariens.
Voilà, ouais. Les libertariens qui sont pour un État autoritaire et donc qui sont opposés à la démocratie, appelons-les comme ça, et dont sont issus tous les penseurs dont on a parlé, et aussi Curtis Yarvin. Je pense qu'on peut s'attarder sur cette figure parce qu'à mon avis, pour comprendre la manière dont cette pensée a pénétré dans les sphères de pouvoir, c'est une personne.
Alors prenons son exemple. Qui est-il? Un ingénieur à l'origine.
Donc c'est un ingénieur informatique de la Silicon Valley qui n'a pas de formation universitaire en théorie politique, en philosophie ou en histoire, mais qui, à la fin des années 2000, enfin à partir des années 2006-2007, commence à publier sur certains forums assez confidentiels pour le grand public, mais qui étaient très, très en vogue dans la Silicon Valley. Donc notamment un forum qui s'appelle Less Wrong, qui était extrêmement populaire à l'époque. Et donc il se fait connaître progressivement sous un pseudo qui s'appelle Mencius Moldbug. Et voilà, il écrit quelques posts qui le rendent célèbre. Il finit par ouvrir son blog en 2007, Unqualified Reservations, dans lequel il invente, selon ses termes, une théorie politique qui serait mieux que toutes les autres, dans la mesure où elle formaliserait tout un tas de problèmes bien mieux que les théories politiques qui auraient été inventées jusque-là, et encore plus spécifiquement que les théories politiques démocratiques qui, selon lui, rendre obscure la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc il développe cette théorie politique avec une quantité d'articles immense au cours des années, on va dire de 2007 à 2012-13, où il commence à ralentir un petit peu son rythme d'écriture. Et à ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ses écrits sont ultra confidentiels, ils ne sont pas repris par les acteurs politiques.
Il faut peut-être dire d'un mot ce qu'il décrit et ce qu'il écrit. Hein. Il explique qu'en gros, la nation devrait être dirigée comme une entreprise. On a désormais besoin d'un monarque qui ne serait pas nommé par voie héréditaire, mais qui serait nommé à la façon d'un CEO, d'un PDG d'une grande entreprise. Dans le fond, c'est ça qu'il cherche à fondre. Hein. C'est à fondre la nation dans l'entreprise et à rapprocher le modèle de l'ingénieur vers celui du politiste, Olivier Tesquet.
Oui, tout à fait. Il y a cette idée que... Alors, il y a toujours un ferment quand même très racialiste, encore une fois, là-dedans. Il y a beaucoup d'idées qui sont toujours très en vogue et qui reviennent, là, maintenant, justement, avec cette nouvelle vague technofasciste une popularité de théorie eugéniste, racialiste. Il y a, par exemple, un ouvrage qui s'appelle The Bell Curve, qui était très populaire dans la Silicon Valley dans les années 90, mais qui n'a jamais cessé de l'être, finalement.
La courbe en forme de cloche.
La courbe en forme de cloche, selon lequel, finalement, il y aurait des inégalités naturelles et biologiques entre les individus et que, par exemple, les individus racisés seraient dotés d'un QI plus faible que les blancs. Et donc, cette idée-là a beaucoup alimenté la pensée de Curtis Yarvin, parce que moi, je vois toujours la chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on parle de cette idée de monarque CEO où, finalement, la figure du roi de droit divin serait remplacée par une figure d'entrepreneur, sachant que dans la Silicon Valley, on a toujours célébré le génie des inventeurs, c'est une terre de fondateurs. Il y a un privilège, quelque part, du fondateur. Mais dans ce modèle-là, qui est un modèle, encore une fois, sécessionniste, hein, puisqu'il s'agit de réduire la citoyenneté à un arrangement contractuel, donc le contrat social de Rousseau n'existe plus dans cette configuration-là. Mais ça veut dire que on choisit son peuple aussi. On peut décider à l'intérieur de cet espace qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas tel ou tel personnage. Relisez un texte de Hoppe qui disait la même chose et qui expliquait que tous les gens qui menaient des modes de vie, ce qu'il appelait alternatifs à l'époque, parmi lesquels il rangeait notamment les homosexuels et les communistes, devaient être exclus physiquement de l'espace commun, sans quoi le projet libertarien ne pourrait pas être réalisé.
On écoute Curtis Yarvin, il donnait une interview au New York Times, c'était en janvier dernier.
Quand je regarde les systèmes dirigés par des PDG, je dis simplement que si vous prenez n'importe lequel des PDG du classement Fortune 500, certains sont bons, d'autres sont mauvais, mais globalement, choisissez-en un au hasard et mettez-le à la tête de Washington. Et je pense que vous obtiendrez quelque chose de bien meilleur que ce qui existe actuellement. Il n'est pas nécessaire que ce soit Elon Musk, mais ces personnes ont en elles le sentiment d'avoir une obligation réciproque. Quand vous êtes PDG, votre but n'est pas de gagner de l'argent, mais de faire prospérer votre entreprise.
Alors dites-nous, Arnaud Miranda, encore une fois, j'en reviens à cette question, comment ces idées-là perce-t-elle dans la sphère trumpiste aujourd'hui, et même dans l'action concrète en matière de politique publique?
Oui, donc, après avoir été, avoir fait partie de cette contre-culture numérique très marginale, Yarvin va nouer tout un tas de relations, et en particulier une qui est très importante pour comprendre l'accès au pouvoir de ses idées, c'est Peter Thiel. Peter Thiel, qui est un libertarien de tempérament et même un idéologue libertarien dans les années 2000, va progressivement se convertir à cette vision réactionnaire de Curtis Yarvin et va lui donner une sorte de plateforme et un accès aux politiques, et va notamment lui faire rencontrer ceux qui deviendront les cadres de l'administration Trump 2, donc notamment J.D. Vance. Il lui a fait rencontrer aussi Michael Anton, il lui fait rencontrer Blake Masters, qui sont tous toutes des personnalités très importantes du second mandat de Trump et qui sont aussi de leur côté financés par Peter Thiel. Donc Peter Thiel est vraiment le lien entre ces idées néo-réactionnaires et les acteurs politiques principaux du second mandat de Trump. Et après, si on veut chercher quelques exemples, ou disons quelques parallèles troublants entre les idées que défend Yarvin et, ou même plus largement, les néo-réactionnaires et le second mandat de Trump, alors il y en a au moins, on va dire, trois qu'on peut citer. Il y a le plan Gaza qui a fait grand bruit, à raison d'ailleurs, c'est-à-dire l'idée que pour régler le conflit israélo-palestinien, il fallait transformer à la manière de ce que Yarvin propose en la matière, c'est-à-dire faire de Gaza une entreprise et dédommager les propriétaires terriens, les Gazaouis qui étaient des propriétaires terriens, en leur offrant un token, un jeton, qui aurait une valeur de marché et qu'ils pourraient revendre à condition, évidemment, de quitter leur terre à la base. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qu'on peut trouver, c'est la politique russe, la politique américaine vis-à-vis de la Russie et notamment vis-à-vis de la situation, la position de l'Europe par rapport à la Russie. Yarvin, dès 2022, juste avant l'invasion russe en Ukraine, avait défini ce qu'était une bonne politique trumpienne vis-à-vis de la Russie. Il disait, il faut se désinvestir, il faut laisser la Russie prendre le contrôle du continent, et finalement, ça forcera les démocraties européennes à prendre le pouvoir. Et enfin, un dernier exemple, ce serait aussi quelque chose qui a paru très étonnant dans la politique douanière de Trump, cette espèce de mercantilisme qui sortait des limbes de l'histoire économique. Et en fait, si on regarde, Yarvin, dès la fin des années 2010, disait « je suis un mercantiliste » et prônait une économie politique mercantile.
Mais comment elle se passe très concrètement, là aussi, Olivier Tesquet, cette circulation des idées, cette circulation des concepts? Donald Trump, le matin, quand il se réveille, dans son lit encore, il se connecte sur le blog de Curtis Yarvin pour voir ce qu'il pense et définir ainsi la forme de ses choix économiques et politiques?
Non, je pense qu'il est plus intéressé par les audiences de Fox News que la prose assez logoréique d'ailleurs de Yarvin.
Mais quel est le chemin des idées alors?
Yarvin n'est pas un Rasputin, il faut le dire quand même pour les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il rêverait d'être ça, d'être un peu le mage noir comme ça de l'administration de Trump, mais il ne susurre pas à son oreille. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que ces idées, c'est un peu difficile peut-être pour nous à appréhender en tant qu'Européens, elles circulent beaucoup sous des formes qui ne sont pas les formes préétablies avec lesquelles on construit le savoir. C'est-à-dire, ça ne se fait pas sur les campus universitaires, ça ne se fait pas avec la publication d'essais, ça se fait beaucoup par des blogs, par des podcasts. C'est pas pour rien si quelqu'un comme Joe Rogan...
C'est pas université, revue, télévision.
Non, voilà, c'est pas de cette façon-là, même si quand même, alors là, j'apporte une petite réserve là-dessus, c'est que quelqu'un comme Peter Thiel, par exemple, à la différence d'autres patrons ou d'autres figures, d'autres milliardaires de la Silicon Valley, lui est un vrai intellectuel, et qu'en intellectuel, il laisse des traces, et il laisse des traces écrites. Il a publié un certain nombre de textes qui permettent aussi de mieux comprendre comment s'organise cette pensée et comment ensuite elle circule à l'intérieur de ces cercles-là qui, encore une fois, sont peuplés en fait de gens qui sont pas d'accord entre eux, hein, aussi, il faut le dire.
Un autre point qui m'a marqué à la lecture de votre ouvrage, Olivier Tesquet, intitulé Apocalypse Nerd, c'est que dans le fond, il y a un paradoxe très fort parmi toutes ces personnes qui font de la politique, au fond même qui ne font que de la politique, même lorsqu'elles font des affaires, lorsqu'elles entreprennent, lorsqu'elles délivrent des discours sur la société. Et dans le même temps, elles rejettent profondément le paradigme politique. Elles veulent le tenir à distance. Même l'origine, peut-être, de la pensée libertarienne, c'est de dire on va s'éloigner le plus possible de la politique. Comment comprendre ce paradoxe ?
Complètement. Et je vais rester sur l'image de Peter Thiel parce que je pense qu'il incarne très bien à l'intérieur de lui-même cette tension-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, depuis le début, en fait, veut s'affranchir de la politique. L'une de ses premières aventures entrepreneuriales, c'est de cofonder PayPal, donc le système de paiement qui, à l'époque, visait à s'affranchir du système monétaire mondial. Donc c'était une première tentative sécessionniste, on va dire. Et en dépit de ça, Peter Thiel reste absolument absorbé par la chose politique, puisqu'on l'a dit, il a financé la campagne de J.D. Vance lors des élections de mi-mandat. Je pense que J.D. Vance ne serait probablement pas là où il est aujourd'hui s'il n'avait pas été fabriqué, si j'ose dire, politiquement par Peter Thiel. Et Peter Thiel, en fait, il faut regarder qui sont ces figures un peu tutélaires. J'ai retrouvé dans mes archives des petits visuels, des photos où on voit des tableaux blancs et où Peter Thiel dispense des cours parce qu'il aime bien, voilà, comme ça. Là, en ce moment, il est en train de donner une série de conférences sur la figure de l'antéchrist aux États-Unis, à San Francisco. Conférence très discrète où on n'a pas le droit de prendre de notes, pas le droit de publier quoi que ce soit. Mais j'ai ces tableaux et où on voit tout un tas de dessins parfois un peu des gribouillis, on va dire, et puis on arrive quand même à identifier quelques noms, et je pense que il y en a trois notamment qui reviennent et qui permettent de comprendre sa vision de la politique et sa vision du pouvoir. Et en fait, faut les concevoir comme trois étages de la fusée. Le premier, c'est un constat qui est un constat très anti-moderne, un constat qui consiste à prendre acte de la déliquescence et du déclin de l'Occident. D'ailleurs, le déclin de l'Occident, livre d'Oswald Spengler du début du XXe siècle, qui voilà peut-être un des livres de chevet de Peter Thiel, qui présuppose que en fait les civilisations sont comme des organismes vivants qui naissent, grandissent, puis s'affaiblissent et finissent par mourir, qu'on retrouve aussi chez d'autres penseurs qui sont très importants pour lui, Léo Strauss ou même Pierre Manant par exemple en France. Donc ça c'est le constat. Faisant ce constat-là, plutôt que de se dire comment revivifier la démocratie libérale, il prend acte de son décès et mobilise la figure de Carl Schmitt. Carl Schmitt, qui à mon avis est une figure absolument fondamentale pour comprendre l'exercice du pouvoir trumpiste. Donc Carl Schmitt, juriste du Troisième Reich, avant qu'il s'éloigne de lui, que le Troisième Reich s'éloigne de Carl Schmitt, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre à partir de 36, à qui on doit notamment une réflexion assez épaisse et assez incontournable d'ailleurs sur le pouvoir d'exception, sur la distinction entre amis et ennemis, qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours aux États-Unis, et père de la décision souveraine. C'est-à-dire Carl Schmitt, c'est la décision revient aux mains du souverain, c'est-à-dire qu'il a le droit de trancher. Donc c'est typiquement les fameux décrets signés par Donald Trump à l'appel et la vision du pouvoir de certains des individus qu'on a évoqués. Et puis ensuite, la dernière figure, qui est vraiment l'autorité morale de Peter Thiel, qui est René Girard, donc philosophe français, qui a été son professeur à Stanford. La théorie mimétique du désir, cette idée que finalement le désir ne naît pas en chacun de nous, mais il est suscité par l'environnement dans lequel on est.
On
désire ce que désirent les autres, et que ce désir génère de la violence, et que le seul moyen de restaurer l'ordre, au moins de manière temporaire, c'est la désignation de bouc émissaire. Là aussi, on voit dans la pratique de la politique aux États-Unis en ce moment que ça se met quand même pas mal en pratique. Donc j'ai un peu l'impression que ces trois étages de la fusée qui sont vraiment les repères de la pensée de Peter Thiel, qui est probablement aujourd'hui, je pense, la figure du monde technologique la plus influente et la plus importante aux États-Unis, bien plus qu'un Elon Musk, hein, même s'il est beaucoup moins riche que lui, quelque part quand même infuse beaucoup dans la pratique du pouvoir trumpiste, même si elle n'est pas exempte non plus d'un certain nombre de frictions qu'on pourra évoquer.
Que veulent-ils, d'une manière très tangible, ces gens, Arnaud Miranda ? Est-ce qu'ils veulent investir l'État pour le remodeler à leur image ? Est-ce qu'ils veulent que l'État s'effondre ? Est-ce qu'ils veulent qu'au fond, leurs grandes entreprises viennent écraser, voire remplacer l'État actuel des choses et l'État américain ? Concrètement, comment imaginent-ils la suite politique de leur pensée ?
Alors ça, c'est, j'ai l'impression que c'est presque une ironie de l'histoire, puisqu'en fait, c'est ces courants marginaux qui étaient fascinés par la sécession et donc qui voulaient fuir la démocratie.
Et fuir la politique, comme on le disait.
Fuir la politique, ça, je pense qu'en effet, c'est très important. Ça m'a rappelé une citation de Nick Land, qui est un autre penseur néo-réactionnaire, qui disait c'est la fin de la politique en mettant 2-3 mots à la suite, hérédité, providence et singularité technologique. Donc ça résume assez bien cette idée. Bon, que veulent-ils ? Pourquoi ironie de l'histoire ? Parce que finalement, ils étaient marginaux et donc ils contestaient l'hégémonie démocratique, progressiste, etc. Donc ils étaient en situation de minorité et ils prônaient une forme de sécession face à cette espèce de totalitarisme progressiste, woke, qu'ils voyaient notamment dans les années 2010 ou en tout cas au début quand naissent les pensées réactionnaires. Et finalement, ils se retrouvent aujourd'hui au pouvoir. Donc en fait, la position ne peut pas être la même quand on a,
Permets de vous couper, mais est-ce qu'ils sont vraiment au pouvoir aujourd'hui ou simplement ils ont un accès au pouvoir et ils font partie de diverses influences qui peuvent prétendre accéder aujourd'hui au pouvoir américain, au pouvoir fédéral américain?
Vous avez raison de me reprendre, je pense que je me suis un peu emballé. Oui, ils ont accès au pouvoir, en tout cas ils ne peuvent plus être dans la situation de dire qu'ils sont minoritaires et donc qu'il faut faire sécession parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc la solution devient... il faut trouver une autre solution à l'échec de la démocratie libérale que de fuir, puisque maintenant ils sont en tout cas aux portes du pouvoir en position de force. Et donc la thèse qu'il emporte, c'est principalement celle du coup d'État de Yervin. Ça a été... énormément repris et ça a fait son chemin dans la jeune garde républicaine qui est désormais notamment autour de Vance, le vice-président des États-Unis. Et il y a un autre aspect de ce coup d'État. Donc le coup d'État, c'est pour Yervin changer la démocratie en monarchie. Mais il y a une autre interprétation de ce coup d'État qui est plutôt du côté des religieux, ou en tout cas de ce qu'on appelle les post-libéraux, donc la version religieuse de la réaction en cours. C'est l'idée qu'on va réinterpréter la Constitution américaine, qui est aujourd'hui, selon eux, interprétée de manière libérale, donc avec un focus sur les droits individuels, etc., qui veulent réinterpréter cette Constitution dans un idéal de bien commun, c'est-à-dire en donnant plus de latitude au pouvoir exécutif pour défendre la communauté. Et donc, on entend bien derrière cette idée de communauté que finalement, on ne va plus prendre en compte les droits des minorités.
Vous êtes d'accord, Olivier Tesquet, sur les moyens mis en œuvre par, ces penseurs de la politique? Quand on lit Curtis Yervin, on est aussi frappé de voir que dans le fond, il a moqué, et largement moqué, la prise du Capitole à la fin du mandat de Donald Trump, tout en disant que cela n'allait pas assez loin, mais sans défendre absolument la prise de l'État par les armes.
Oui, parce que c'est pas sa vision des choses. En fait, on parle moins d'un...
C'est pas un coup d'État classique.
On n'est pas dans un coup d'État violent. C'est pas la marche sur Rome, si vous voulez. C'est d'ailleurs, il l'écrivait effectivement dans un post de blog après l'invasion comme ça du Capitole par les partisans de Trump. Il disait le jour où le fruit sera mûr entre guillemets, ce sera aussi simple que de monter les escaliers. Il y avait vraiment cette idée là, et parce qu'en fait, c'est beaucoup plus qu'une idée de renversement des institutions. C'est l'idée de leur subversion. Le meilleur exemple qu'on peut trouver de ça, c'est le fameux département de l'efficacité gouvernementale où Trump avait installé Musk dès qu'il a repris le pouvoir, dès qu'il a été réélu.
Le Doge en bon américain.
Le Doge, mais qui est à la fois d'ailleurs une référence très cryptique à une crypto-monnaie parodique, en même temps que le Doge, la figure du Doge de Venise, par exemple. On voit là aussi un jeu sur les symboles. Et le Doge avait une fonction assez simple, sous couvert de rationaliser les dépenses publiques, en allant tailler, un peu comme l'a fait d'ailleurs Milei en Argentine, c'était de sabrer l'État social. Et de sabrer l'État social parce que l'égalitarisme est vu comme quelque chose d'absolument contre nature, qu'il faut absolument pourfendre. Donc on est plus dans une logique, vous savez, c'est un peu comme les termites, c'est-à-dire que les termites vont ronger petit à petit, comme ça, le bois, et puis à un moment, la poutre ou le meuble va finir par s'écrouler sous son propre poids.
Bon, mais j'ai l'impression, vous écoutant, que ça s'apparente aussi à de la bataille culturelle au sens de Gramsci, et que dans le fond, on fait avancer nos idées pour gagner politiquement.
Complètement. D'ailleurs, ils sont, alors eux qui sont assez spécialistes dans le retournement des symboles, se sont complètement appropriés la rhétorique gramscienne. Finalement, ce qu'on a là, en face de nous, c'est peut-être aussi ce qu'était la nouvelle droite dans les années 70 en France, avec Alain de Benoist, Le Grèce, etc. Cette idée de faire de la métapolitique, de la politique des idées pour gagner la guerre culturelle, on voit que c'est exactement là le champ dans lequel on est. Après, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est qu'évidemment, ça suscite des frictions. On voit notamment, là, ces derniers jours, le fait religieux a été très fortement mobilisé. On peut avoir l'impression, intuitivement, de se dire, le fait religieux est très mobilisé. L'aspect technologique passe un peu à l'arrière-plan, même si, encore une fois, j'insiste sur le fait que nous, ce qu'on appelle technofascisme, c'est à la fois une architecture du pouvoir, mais aussi un mode de circulation des idées, qui du coup peuvent exister dans un univers, un champ qui n'est pas du tout technologique.
Le religieux, donc, ne s'oppose pas nécessairement à la technologie dans ce domaine ?
Mais alors, pas forcément, parce qu'il y a eu très récemment la NatCon, qui est la conférence nationale des national conservateurs américains, et où, clairement, les technofascistes n'étaient pas en odeur de sainteté. Mais en fait, tous font un peu le même constat, c'est-à-dire, ils font prennent acte de la déliquescence, de la décadence de la civilisation occidentale, de la démocratie libérale, etc. C'est juste qu'ils divergent sur le rituel de purification. C'est-à-dire que pour les uns, c'est la purification par la religion, et puis pour les autres, c'est la purification par la technologie, par l'IA, etc. Et quelqu'un comme J.D. Vance, qui est à la fois un converti qui mobilise, il le dit lui-même ces derniers jours, j'ai jamais autant parlé de Jésus-Christ que là depuis une dizaine ou une quinzaine de jours. Donc il est très religieux, très pieux. Il faut l'écouter quand il a fait cette émission, il remplaçait Charlie Kirk après son décès.
Dans son propre bureau.
Voilà, en disant, dans son propre bureau, dans une mise en scène très étrange de déplacement du pouvoir, où il dit gravir la montagne de la vérité, revêtir l'armure de Dieu. Donc vraiment, dans quelque chose, c'est un croisé quasiment. Et à côté de ça, J.D. Vance est quelqu'un qui est venu du Capital Risk, qui a travaillé pour Peter Thiel, qui est totalement compatible avec ce logiciel technofasciste. Donc, ces frictions-là, moi, je suis assez curieux de voir comment elles vont réussir à s'organiser ou pas à l'intérieur de l'administration Trump.
J'en reviens toujours un peu à cela, Arnaud Miranda, mais quelle est, dans le fond, la base sociale de ces gens dont on parle depuis le début de cette émission ? Olivier Tesquet nous dit, pendant la NatCon, dans le fond, ils n'étaient pas en odeur de sainteté, ils étaient même dans cet environnement si particulier, à la marge. Alors, à quel point leurs idées circulent-elles aussi véritablement aux États-Unis ? Est-ce qu'elles circulent d'abord, ou est-ce que dans le fond, là, entre nous, on joue un peu à se faire peur aussi ?
Alors ça me permet d'insister sur un point très important sur lequel je voulais rebondir, c'est sur la notion de bataille culturelle. C'est-à-dire que je pense que il faut prendre l'expression bataille culturelle au sens vraiment un sens précis pour que ça fonctionne dans l'exemple des néo-réactionnaires, dans le sens où on n'a pas affaire à un mouvement national populiste. L'idée, ce n'est pas de convertir les masses, ce n'est pas de faire un coup d'État en mobilisant les masses, ce n'est vraiment pas ça.
C'est pas un mouvement européen dans ce sens-là. On n'est pas du tout dans l'extrême droite européenne qui oppose le peuple et les élites. On est même, au fond, dans un mouvement très élitaire.
Le national populisme existe aux États-Unis. Il a fait ses preuves en 2016. À mon avis, il est mort au moment de la prise du Capitole. C'était un petit peu sa dernière heure de gloire, finalement. Mais ce mouvement, disons, a montré ses limites. La stratégie populiste a montré ses limites, et c'est justement, à mon avis, l'échec de la stratégie nationale populiste qui a fait qu'on a maintenant une stratégie élitiste, puisqu'il faut bien comprendre que Yarvin, depuis le début, dit il ne faut surtout pas défendre nos idées dans l'espace médiatique, une sorte d'arène médiatique des idées politiques. L'idée, c'est...
Il ne s'agit pas de convaincre la majorité.
Non, c'est d'être pragmatique, de cibler qui on veut convertir. Il le dit dès les années 2007-2008. Donc, bien avant d'être en contact avec des personnalités politiques, il dit il faut cibler ces gens, il faut les faire changer d'idéologie, il faut les convertir à la réaction, à la néo-réaction en l'occurrence. Et lorsqu'ils atteindront le pouvoir, ils sauront quoi faire, et donc en fait le coup d'État se fera de manière quasiment, de manière complètement transparente, ou en tout cas inconnue pour la majorité.
Il suffira de monter les marches. Olivier Tesquet.
Et avec cette idée quand même, parce que alors c'est toujours difficile de quantifier leur pouvoir réel, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, on voit aux États-Unis, avec notamment ces menaces brandies à longueur de temps, ces figures désignées comme ennemies, la gauche d'une manière générale, on voit bien que ça obéit aussi à cette logique d'exclusion de ce fameux espace délimité par les frontières des États-Unis, afin de pouvoir faciliter aussi cette mutation du pouvoir.
La spécialiste des États-Unis, Judith Pérignon, elle était l'invitée de l'émission C'est politique sur France 5 hier soir.
Moi, je trouve qu'il faut quand même faire attention à pas avoir les yeux rivés sur les mots de Donald Trump. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Chicago ? Il a dit qu'il allait envoyer la garde nationale, il les a menacés, il ne l'a pas fait. Il y a eu tous les travailleurs qui sont chargés des camions, vous savez, comme c'est une zone très enneigée, ils se sont mobilisés avec leurs camions et leurs salières pour faire barrage à la garde nationale. Il y a eu une réaction très forte à Chicago, et quand les gens réagissent, il va voir ailleurs. Donc il faut faire attention, là, on est en train de décortiquer tous les mots et d'avoir les yeux rivés sur la moindre connerie de Donald Trump. Et dans ce cas-là, moi, je trouve qu'on lui donne, on le laisse gagner, on le laisse nous envahir, nous hypnotiser. Ouais. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis qui réduisent énormément cette invasion. Il nous inonde.
Vous avez fait le choix avec votre co-autrice Olivier Tesquet d'aller justement dans l'autre sens, d'aller vous immerger dans ces textes, ces blogs souvent extrêmement cryptiques, très peu prémonitoires. Alors pourquoi c'est important selon vous justement de s'intéresser à ces théories ?
Alors, je pense que c'est pas jouer à se faire peur, c'est assez nécessaire. C'est-à-dire que je vais reprendre là pour le coup un terme du titre qui est le terme d'apocalypse. L'apocalypse au sens de la révélation. Mm-hmm. C'est souvent comme ça qu'il est mobilisé d'ailleurs par Peter Thiel.
Révélation de la vérité.
La révélation de la vérité. J'ai pas envie de laisser le monopole de l'apocalypse en tant que révélation à Peter Thiel. Et donc je pense que c'est important aussi de décrire, y compris de décrire la matérialité de ce monde-là. J'entendais donc l'extrait là avec Judith Pérignon. Et c'est vrai qu'il y a des mobilisations. On a vu aussi par exemple à Los Angeles des mobilisations contre l'ICI, la police de l'immigration de Trump, surnommée par son propre patron l'Amazon Prime des êtres humains, ce qui est quand même absolument terrible comme dénomination, qui aujourd'hui peut mettre en œuvre cette politique migratoire de Trump d'exclusion des corps indésirables, parce que c'est de ça dont il s'agit, avec un logiciel fourni par une entreprise qui s'appelle Palantir, qui est une entreprise de Peter Thiel, qui aujourd'hui est valorisée à quasiment 400 milliards de dollars et pèse plus lourd que Coca-Cola.
Alors, et qui est le bras armé aujourd'hui de l'administration fédérale dans ce domaine.
Et qui est le bras armé de l'administration fédérale dans ce domaine, d'ailleurs avec une délégation du pouvoir, où on pourrait dire que c'est une privatisation de la souveraineté, une privatisation de l'État punitif, qui doit être du coup examinée comme telle. Après, on pourra dire qu'effectivement, ils ont expulsé moins de gens que ce qu'ils avaient promis, etc. Mais cette architecture du pouvoir se met en place, et je pense qu'il est absolument nécessaire de mettre la lumière, justement, dans les endroits sombres, comme ils adorent les appeler, où ils n'ont pas très envie qu'on la mette.
Arnaud Miranda, même question, vous allez faire paraître les lumières sombre, une analyse de la pensée néo-réactionnaire. Alors, pourquoi là aussi se plonger, s'immerger dans ces textes, dans ces mots dont on redit que pour le moment ils sont situés même à la marge de la vaste carte des réactionnaires américains ?
Alors, je pense que c'est poser la question de manière incomplète de se demander si on n'est pas en train de les laisser gagner. Je pense qu'il faut déjà faire un constat, c'est que de nombreux égards, ils ont gagné.
C'est-à-dire, ils ont déjà gagné.
Si on regarde la contre-culture numérique des années 2010, je pense que les mouvements de droite se sont affirmés, ont convergé, se sont organisés beaucoup plus efficacement que les mouvements de gauche. En tout cas, dans le contexte américain, ça me semble indéniable. Donc, je pense qu'il faut admettre le constat de cette victoire des réactionnaires. Et donc, prendre acte de cette victoire, c'est, à mon avis, ça nous mène nécessairement à l'analyse théorique de leur cadre idéologique afin de comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Ça ne veut pas dire que c'est déjà la voie vers le fascisme et qu'on a déjà affaire à un fascisme en acte. Néanmoins, il y a des dynamiques qui, à mon avis, ne peuvent être comprises que si l'on va à la racine idéologique de ces mesures. On a parlé des mesures qui avaient influencé Yarvin dans le gouvernement Trump. Bon, si on n'avait pas analysé idéologiquement ce qu'écrivait Yarvin, on ne pouvait pas comprendre d'où ça venait. Donc je pense que c'est une forme de clarification dont ont besoin les forces démocratiques si elles veulent trouver une forme de réponse normative à ces attaques.
Clarification nécessaire. Olivier Tesquet.
Oui, le fascisme, c'est jamais un éclair dans un ciel bleu, hein. C'est toujours un processus. Et je pense que là, ce qu'on est en train de décrire, c'est un processus. C'est un processus de conquête du pouvoir. Ça ne veut pas dire que cette conquête du pouvoir est pleinement réalisée. Ça ne veut pas dire que les technofascistes ou les lumières sombres, ça y est, sont à Washington et vont déferler sur le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus minorer l'influence qu'ont ces mouvements-là, qui aujourd'hui, quand même, me semble assez réel et se base sur... Voilà, on a des éléments quand même pour l'apprécier.
Les lumières sont autre concept sur lequel on aurait pu s'appesantir. Merci en tout cas à tous les deux de vos lumières claires. Olivier Tesquet, vous êtes journaliste à la cellule enquête Télérama. Vous signez un ouvrage passionnant, je le redis, avec Nastasia Hadjadji, que vous avez intitulé Apocalypse Nerds, comment les technofascistes ont pris le pouvoir. Et Anna Miranda, pour vous lire, on attendra janvier prochain, puisque chez Gallimard apparaîtra Les Lumières Sombres, donc une analyse de la pensée réactionnaire. Merci à vous deux, et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane de Vincent, Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Antoine Héral. Juste après l'émission, on va se poser une question. Qu'est-ce que cela signifie changer de siècle ? On en parlera avec l'historien Florian Louis.